J'ai jamais été à la campagne.
Oh, bah oui, enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
CO2, mon amour.
Hein?
Ah, ça se complique.
Non, regarde ça. Ça, c'est une chenille de papillon lune, tu vois?
Ce truc horrible, un papillon.
Ah oui.
Denis Chessou.
Quelle marque?
Comment ça, quelle marque?
Ce sera quoi comme marque, votre papillon?
Ah, le... Je sais pas.
Sur France Inter.
Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein?
Eh ben, heureusement, les papillons ne sont pas encore des marques. Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. CO2 Mon Amour, c'est la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui à la technique Rémi Sistiaga et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. C'était le 2 décembre, vers 17h. La nuit ouvrait doucement son drap dans le beau département du Lot, sur le causse de Cajard, à Calvignac. Il s'appelait Morgan Keane, un jeune homme d'origine anglaise, coupé du bois à une centaine de mètres de la maison familiale, acquise par ses parents, tombé amoureux du causse depuis longtemps. Alors en fait, c'est très nul de parler de lui à l'imparfait, alors qu'il n'avait que 25 ans. Il a croisé une balle. Sans doute lui a-t-il refusé la priorité. Un peu plus loin se tenait une battue au sanglier. Alors ce monde est violence, pourquoi la chasse en rajoute-t-elle? Question vaine, je le sais très bien. Un chasseur de 33 ans a vu une masse sombre à 100 mètres de lui. Dommage, ce n'était pas un sanglier. Il avait obtenu son permis de chasse durant la période du premier confinement. Il est très abattu, comme on dit, mais moins que Morgane. Début prometteur, avec un bel encadrement de ses aînés de la Fédération du Lot, certes désolé et affirmant la nécessité d'aller encore plus loin dans l'éducation des chasseurs à la sécurité. Dans ce hameau de la Garrigue, Morgan vivait avec son frère dans la maison de ses parents décédés depuis peu, dont ils étaient très proches.
À sa mère, il disait toujours d'être prudente et de prendre soin d'elle.
Il est resté au chevet de son père et l'a veillé jusqu'à la fin. Liliane à Calvignac le considérait comme son fils.
Ici, tout le monde l'aimait et il y avait beaucoup d'amour en lui.
Difficile d'imaginer de se faire tuer dans sa propriété.
Morgan était toujours serviable et quand on lui demandait de l'aide sur un chantier pour restaurer une bâtisse, il répondait toujours présent. Drôle, gentil, toujours là pour les copains.
La limite de 150 mètres autour des habitations et des bâtiments d'élevage semble assez dérisoire pour assurer la sécurité de tous et le bon voisinage entre usagers des mêmes espaces. Eh ben, elle ne fut même pas respectée.
Autodidacte, Morgan avait fondé une association de musique avec son copain Michael à Cajard. Plein d'envie et des projets en tête.
Quand des chasseurs se flinguent entre eux par accident, il n'y a pas à se réjouir. Mais ça fait partie des risques assumés du métier. Y a-t-il un autre loisir que la chasse, faisant peser un risque mortel sur ceux qui ne pratiquent pas ? Habitants, joggeurs, randonneurs, vététistes, ramasseurs de champignons, vous avez jusqu'à la fin de l'heure pour donner votre réponse. La novlangue qui maquille tout, tout ce qu'elle touche pour rendre les choses acceptables, ne dit plus « on tue les animaux, mais on les prélève ». Que doit-on dire pour Morgane ? Qu'on a prélevé sa vie à 25 ans à l'aide d'un fusil proche d'une arme de guerre ? Alors la dépêche du midi a très bien fait son travail, c'est sa vocation de proximité. Et ces mots ne sont pas là pour faire pleurer, mais juste pour que ce drame, qui ne sera pas le dernier, ne soit pas qu'un fait divers, un fait divers à la sortie de l'automne. 900 personnes ont participé à une marche blanche à Cajard. La chasse a continué. Il s'appelait Morgan Keane, est né à Villefranche-du-Rouergue en 1995, et il aimait la nature. Alors pas de sanglier hein, au menu de cette émission, mais de la tortue, donc une vie de tortue marine dans CO2 Mon Amour, en mer, sur le sable, et aussi pour un stage de remise en forme dans un bassin. On va commencer par Benjamin Guichard de l'Office français de la biodiversité. On est sur la plage du Gros du Roi, donc en Méditerranée.
Au large de cette plage, peu de gens le savent, mais évoluent des tortues marines.
Ouais.
Il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, à quelques kilomètres d'ici, l'une d'entre elles est remontée sur une plage comme ça et est venue pondre. C'est un phénomène qui s'accélère. Il y a de plus en plus de tortues qui viennent pondre sur les plages françaises. Il y en a une qui est venue en Corse l'année dernière. Il y a quelques années, c'était à Fréjus. Et donc, c'est quelque chose qui s'accélère actuellement.
Parce que normalement, je vais pondre, je sais pas, en face, en Algérie, en Tunisie.
Alors voilà, juste en face. C'est pas, voilà, on voit pas, il y a un peu de brume. Mais
ouais,
c'est sur les plages d'habitude de la rive sud de la Méditerranée, puis aussi à l'est de la Méditerranée, notamment en Grèce et en Turquie, que ces tortues vont pondre d'habitude. Et sinon, elles évoluent au large des côtes françaises, notamment quand elles sont jeunes. C'est un vrai parcours du combattant pour les tortues, hein, entre l'éclosion dans les nids et l'arrivée à l'âge adulte. Il y a pratiquement une seule tortue sur 1000 qui survit. Et ensuite, elles ne deviennent matures sexuellement que vers l'âge de 10 ans.
Mais si il sert de courir et de partir à point, de courir sur le sable vers la mer quand on est une tortue. Comme cet été d'ailleurs à Fréjus, hein, parce qu'il y a eu des éclosions, donc fin août on en a beaucoup parlé, même si c'était passé peu de choses donc avant. Alors jusqu'à présent les côtes françaises étaient surtout connues pour les zones d'alimentation hein, des dites tortues. Et ben voilà, donc là peut-être le réchauffement, donc on va voir tout cela. On va partir avec Benjamin Guichard, donc que vous avez entendu, qui est vétérinaire, qui est plongeur, qui est expert à l'OFB, de l'Office français de la biodiversité. Il est chargé de mission et coordonne au niveau national tous les suivis des mammifères marins et des tortues marines. Elles n'ont pas de secret pour lui. Combien d'espèces ?
Il y a relativement peu d'espèces. Il n'y a que 7 espèces de tortues marines au monde. Elles évoluent dans pratiquement tous les océans, à l'exception d'une seule qui ne vit qu'en Australie. Et les 6 autres, on peut les trouver dans les eaux françaises. Et notamment en métropole, on peut trouver des tortues kawanes, donc c'est celle qu'on va voir tout à l'heure, qui évolue en majorité en Méditerranée, ou bien en Atlantique, des tortues luttes.
Rappelez-moi quand même, il y a 250 millions d'années, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'au départ, je suis une tortue terrestre, une tortue marine ?
Toutes les tortues marines actuelles descendent d'un ancêtre terrestre, puisqu'on retrouve bien les quatre pattes hein, qui servaient à évoluer sur Terre. Et donc, elles sont retournées à l'eau très précocement, semble-t-il, au début de leur évolution, il y a 200 millions d'années. Celles qui évoluent actuellement sont les dernières descendantes directes de ces tortues qui ont évolué en même temps que les dinosaures. Et donc il y a eu des ancêtres très très étonnantes. Il y a une tortue à la fin de l'époque des dinosaures, il y a 80 millions d'années, qui faisait 4 mètres de long. Donc vraiment une énorme tortue marine qui était assez proche de la tortue lutte actuelle d'ailleurs.
Parlons des menaces, Benjamin Guichard, quelles sont-elles ?
Elles sont assez nombreuses en mer, hein, puisque à tous les stades de la vie de la tortue, elles se trouvent un petit peu menacées par des activités humaines. Dès les premiers stades en mer, elles risquent d'avaler des déchets plastiques qui flottent à la surface et qu'elles confondent avec leur proie. On va le voir au centre de soins, il y a vraiment une très forte proportion de tortues qu'on retrouve échouées avec des déchets plastiques dans leur tractus digestif. Elles peuvent être braconnées dans certains endroits dans le monde, encore assez massivement, même par endroits. Les écailles de tortues ont longtemps été exploitées, alors c'est plus tellement le cas maintenant, mais il y a beaucoup de régions dans le monde où les tortues sont encore consommées. Toutes les tortues marines actuellement sont menacées, hein. Les 7 espèces sont dans des états plus ou moins critiques de conservation. C'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir une connaissance de leur état en France et également dans les autres pays d'Europe hein, pour pouvoir voir comment on pourrait agir pour rétablir le bon état écologique de ces populations et essayer d'avoir un rôle dessus, même si effectivement, comme elles se déplacent toutes à très grande échelle, la difficulté c'est de réussir à pouvoir avoir un effet sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le rétablissement du bon état écologique des populations de tortues marines passera certainement par un changement de nos modes de vie, en particulier rejeter moins de déchets plastiques, avoir moins d'impact en mer, trouver des solutions qui existent déjà. En Guyane ont été développés des systèmes de pêche qui permettent les tortues peuvent se sortir de ces systèmes dits TED. Et donc voilà, il faut absolument qu'on adapte nos modes de manière à réduire nos impacts sur les tortues marines.
Alors là, je ne sais pas d'où il vient, mais on a une carotte qui s'est échouée là sur la plage.
Ah oui, ce n'est pas les pires des déchets, ceux-là.
Non, ça va encore. Enfin,
effectivement.
Bon.
Mais parmi les autres menaces qu'on peut trouver donc, pour les tortues marines, il y a effectivement les activités de pêche et peuvent souvent se retrouver emmêlées dans les filets tendus par les pêcheurs pas très loin, là, au large des côtes, à quelques kilomètres. Dans le pire des cas, elles meurent noyées dans ces filets, mais assez souvent, elles sont remontées vivantes. Et dans ces cas-là, les pêcheurs, souvent, les ramènent pour qu'elles soient remises en forme. Ça a un vrai impact sur les populations, puisque une tortue marine qui a déjà traversé toutes les épreuves de la vie pour devenir mature sexuellement, c'est vraiment important de pouvoir la remettre en forme et la relibérer dans son milieu pour qu'elle puisse continuer à se reproduire.
Et la remise en forme, où cela? Eh bien, grâce au CESMED, le Centre d'études et de sauvegarde des tortues de Méditerranée. Ce sera au Gros du Roi après ces quelques accords. C'était Black Pumas, Black Cat. Ben nous, c'était plutôt des tortues marines. Elles sont pas trop noires, nos tortues. En tout cas, c'est des tortues sorties de bien plus loin que la préhistoire, descendantes des reptiles primitifs. Bon, donc elles sont apparues, on va dire, il y a à peu près 200 millions d'années. Elles étaient toutes terrestres, on l'a compris. Puis, en gros, à peu près, il y a une centaine de millions d'années plus tard, vous avez des familles qui ont choisi le chemin de la mer. On va prendre un autre lieu, nous, celui du Gros du Roi. Quand une tortue donc marine est recueillie, eh ben, évidemment, c'est qu'elle n'est pas très en forme, et elle arrive au CESMED. Alors le CESMED, c'est le Centre d'études et de sauvegarde des tortues de Méditerranée. Là, nous rejoignons Cindy Capdet, qui est chargée de l'animation et de la sensibilisation.
Il y a 12 vagues et actuellement, on a 8 tortues marines. Ouais. Ce sont des kawens, donc c'est toutes des juvéniles. Elles ont entre 5 et 10 ans.
Si elles sont d'ici, c'est parce que c'était mal en point, donc, au départ.
Alors certaines sont blessées par les filets de pêche quand elles se débattent. C'est le cas pour Aurel Ier et Lila Doc.
C'est leur nom ?
Oui, c'est leur nom.
Certaines ont été juste choquées, d'autres ont été blessées.
Bah, là, par exemple, Amazon, on voit qu'elle a une trace d'hélice de bateau sur la carapace. Donc là, c'est soin à la bétadine pendant plusieurs jours.
Et ensuite, on passe du centre de soins au centre de réhabilitation.
C'est ça. Le centre de réhabilitation, c'est un bras de mer qui fait 200 mètres sur 20 mètres de long et ça permet aux tortues de nager. Parce que là, les bassins font à peu près 1,50 m et les tortues marines, il faut savoir que ça nage environ 50 km par jour.
Et après, c'est la mer.
Et après, normalement, c'est la mer quand tout se passe bien.
Oh, oh mon estomac. Oh.
Hey, dis donc, tu vomis pas sur la carapace, Coco, hein, je viens de la cirer.
Alors, monsieur Tortue.
Oh, Coco, monsieur Tortue, c'est mon père, ok. Je m'appelle Georges.
Georges? Ah oui? Ok, Georges. Écoutez, il faut que je me rende jusqu'au courant est-australien, CEA.
Coco, t'es en plein dedans, voyons.
Qu'est-ce que l'on raconte donc à des gens néophytes qui ne connaissent pas les tortues marines?
Dans la culture, on pense que la tortue est un animal fragile, inoffensif, un peu comme dans Nemo où tout le monde vit en famille, alors que c'est un animal qui est solitaire. C'est pas un animal qui est très câlin, c'est un animal qui a un bec assez puissant, donc il faut faire attention parce qu'on peut très bien perdre une ou deux phalanges. Et c'est très très résistant par contre. On voit des fois, elles ont une nageoire en moins ou leur carapace est vraiment dans un état... On n'arrive pas à savoir comment elles arrivent pour vivre, en fait, et elles s'en sortent très bien dans la nature. Et ça ne rentre pas sa tête dans sa carapace comme la plupart des tortues. Les tortues terrestres et aquatiques le font, mais les tortues marines, non.
Et alors, comment on baptise, en fait, une tortue?
C'est soit le pêcheur qui choisit le prénom, ouais. Majoritairement, c'est le nom du bateau, soit c'est une personne qui nous accompagne, ou un bénévole par exemple. Et voilà. Donc, par exemple, Aurel Premier, c'est le soigneur animalier qui nous l'a remis, qui s'appelle Aurélien, donc il l'appelait Aurel Premier. Lila Doc, c'est le nom du bateau qui l'a récupéré. Et Florian, c'est le nom du plombier qui m'a permis d'aller chercher la tortue marine au port.
Oui, non, mais il ne l'avait pas retrouvé dans une canalisation. Quoi,
non. C'est, il était chez moi à ce moment-là parce que nous, on est joignables souvent, tout le temps, en fait. Voilà. Ouais, si on nous appelle à 7h du matin pour aller chercher une tortue, on y va. Si c'est à 17h pour aller chercher une tortue, on y va aussi. Quoi.
Il y a combien d'échouages, on va dire, à peu près?
En tout, à peu près par an, de notre côté, il y a une cinquantaine.
Une cinquantaine qui arrivent par ici. Il y en a quelques-unes aussi qui arrivent plutôt du côté est vers PACA. Donc, ils vont au centre de soins qui se trouve près d'Antibes. Et puis, sur la façade atlantique, c'est à peu près les mêmes chiffres. Ce n'est pas les mêmes espèces, mais c'est les mêmes chiffres.
Alors, comment on se rend bien compte par rapport aux dauphins, etc. C'est beaucoup plus important, les dauphins?
Ah oui, alors par contre, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que les échouages de mammifères marins. Depuis quelques années, il y a vraiment des échouages très massifs de dauphins sur la façade atlantique. L'année dernière, il s'en est échoué 1200 en l'espace de 3-4 mois. Et sur l'ensemble de l'année, les mammifères marins, entre l'Atlantique et la Méditerranée, c'est plutôt entre 1500 et 2000 qui s'en échouent.
Les marins-pompiers auront tout tenté pour sauver ce dauphin blanc et bleu d'un mètre 60, découvert ce matin échoué à l'entrée du port de la Pointe Rouge. Les plongeurs l'ont littéralement tenu à bout de bras pendant près de 2 heures. Mais le dauphin était trop fatigué. Malgré les soins et le réconfort prodigués par les marins-pompiers, il n'a pas survécu.
Il s'est certainement épuisé avec le filet qu'il avait dans la gueule et le bout qu'il avait autour de la queue qui l'empêchait certainement de nager correctement.
C'est à 90% des captures accidentelles dans les engins de pêche. Et ensuite, les causes de mortalité. Alors, il peut y avoir des causes naturelles, bien sûr, hein, mais sinon, il y a également des collisions qui ont lieu, principalement avec les grands mammifères marins, les baleines, les cachalots. Et puis, tous les impacts qu'on peut avoir des activités humaines, que ce soit la pollution, les contaminants, les impacts du bruit, effectivement, même si c'est pas toujours très facile à mettre en évidence. Voilà, un assez large panel de causes de mortalité.
De nuisances. Alors maintenant, on ne va pas ouvrir, si vous voulez, le ventre d'une tortue, mais c'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur.
Dans les autopsies qu'on a faites, parce qu'on récupère, nous, les tortues vivantes, mais aussi mortes, on retrouve à peu près 14 grammes de plastique, ce qui représente une bouteille de 50 centilitres. Donc on retrouve du plastique solide, des papiers de bonbons, les pailles. On retrouve des mégots de cigarettes aussi, parce qu'elles sont opportunistes, on va dire qu'elles essayent de... qu'elles mangent un petit peu tout ce qu'elles trouvent. Les ballons de baudruche aussi, qu'on jette en l'air, ça va pas au paradis, donc ça retombe dans l'eau et ça les mange.
On risque quoi? L'occlusion intestinale?
Oui, c'est ça, occlusion intestinale. Donc nous, quand on s'en aperçoit, on peut leur donner de l'huile de paraffine.
Tu disais, Cindy, que la petite tortue juvénile là-bas a failli mourir de froid dans un filet de pêche, c'est ça?
Alors, elle a failli mourir asphyxiée dans un filet de pêche. Nous, c'est vrai, on travaille beaucoup avec les pêcheurs, donc c'est super important de le signaler qu'on coopère vachement avec eux et qu'ils sont assez cool. Donc, ils nous ont appelés sur le moment pour nous dire, voilà, on a une tortue qui est mal en point, elle ne bouge plus, elle est quasiment bleue au niveau du cou. Donc là, c'est qu'elle avait de l'eau dans les poumons. Et donc, nous, on a pu donner les premiers gestes de secours pour la tortue marine, donc, c'est-à-dire la pencher en avant pour que l'eau s'enlève des poumons. Et voilà, elle a pu survivre les mandats comme ça.
Alors, d'une façon générale, Benjamin, donc, elles se nourrissent de quoi? On sait qu'elles se nourrissent de méduses, de poissons aussi.
Comme disait Cindy, elles sont assez opportunistes une fois au large. Alors, ça dépend un petit peu aussi du stade de la vie. Hein. Pendant les premières années de leur vie, elles restent loin au large, elles ne se rapprochent pas du tout des côtes. Et elles se nourrissent de petits poissons ou d'organismes planctoniques, petites méduses et des choses comme ça. Et puis quand elles sont plus grandes, comme certaines d'entre elles là, qu'on a vues, qu'elles arrivent entre 5 et 10 ans, et à partir de leur maturité vers 10 ans, elles peuvent se nourrir de poissons entiers.
La longévité de ces tortues, qu'est-ce que c'est?
C'est 80 ans.
Ah oui.
Il y a une tortue sur 1000 qui arrive à l'âge adulte. Donc à l'âge adulte, c'est entre 20 et 30 ans pour la kawane. Il y a 10 tortillons, c'est comme ça qu'on appelle un bébé tortue, un tortillon, 10 tortillons sur 1000 qui arrivent à la mer. Et après, il y en a une sur 1000 qui arrive à l'âge adulte. Ça veut dire qu'ici, sur les 8 tortues, il y en a encore qui ont du chemin à faire avant d'arriver à l'âge adulte.
Alors vous, Cindy, vous êtes toute jeune. Vous êtes arrivée, on l'a bien compris, donc de Lorraine, où il y a très peu de tortues. Enfin, à une époque, c'était l'océan quand même aussi. Hein. Bon. Pourquoi vous êtes intéressée vraiment à ces animaux?
Je peux les regarder pendant des heures. nager dans leur bassin. Et le plus beau, c'est quand on les relâche au centre de réhabilitation. Quand on voit qu'elles ont plus d'espace, on voit qu'elles sont heureuses. Et après, le fameux relâcher en mer, où là, on coupe un peu le cordon qu'on a eu pendant quelques mois avec elles.
Peser, mesurer, observer sous toutes les écailles. Un check-up complet pour Thalassa. Cette tortue marine est arrivée au début de l'hiver dernier. Amaigrie, elle pesait 4 kg à son arrivée dans le centre. Aujourd'hui, elle a doublé en taille et en poids. Elle est prête à retourner dans la Méditerranée, débordante d'énergie.
Alors c'est un vrai travail de remise en vie, parce que vous l'avez dit, une sur mille seulement donc arrive à maturité. Ce que vous faites là, pour la population, c'est très important.
Alors nous, ça nous permet justement d'avoir plein d'informations sur elle. On travaille avec des chercheurs. Le fait de mettre des balises, ça nous permet de savoir quelle tortue va à tel endroit. On a plein d'informations sur elle. Et du fait d'avoir de plus en plus d'informations, on peut mieux les protéger.
On a pour projet dans les prochaines années, en particulier avec le CESTMED, de poser autant de balises télémétriques qu'on pourra chaque année, entre 8 et 10, on aimerait bien, sur les tortues adultes qu'on relâche, pour voir en particulier les liens que ces populations ont avec le reste de la Méditerranée, où est-ce qu'elles vont se reproduire, où est-ce qu'elles pondent, où est-ce qu'elles s'alimentent, et mieux connaître ainsi les habitats critiques importants à protéger pour rétablir l'espèce.
Combien on a de lieux comme ça en France qui vont sauver les tortues ou les mammifères, disons ?
En Méditerranée, il y a principalement deux centres de soins, un ici et un près d'Antibes. Et puis en Atlantique, il y a un seul centre de soins qui se trouve à La Rochelle.
Ils ne sont pas nombreux.
Ils sont pas très nombreux, effectivement. Alors que pourtant, en Méditerranée comme en Atlantique, bon an, mal an, c'est entre 50 et 100 tortues qui s'échouent vivantes ou mortes chaque année. Il y a vraiment un besoin pour ces structures de pouvoir rétablir ces tortues et les remettre en liberté ensuite.
Et le taux de réussite est assez bon en général ?
Oui, on a 95 tortues qui repartent.
Sur 100 ?
Sur 100.
Ouais,
c'est pas mal.
Bon, dis donc, elles ont l'air assez actives, là. Hein.
Ah oui, elles ont faim, là.
Ah, c'est ça.
Il y a notre bénévole qui est parti aller chercher des poissons pour les nourrir. Voilà.
Ah, alors là, c'est le seau avec les poissons. Quel est votre prénom ?
Océan.
Vous êtes vous-même bénévole ?
Oui.
Alors racontez-vous, quel âge vous avez ?
Là, j'ai 14 ans. Ça fait 4 ans que je suis bénévole.
Alors là, nous avons ?
Du hareng.
Donc on leur coupe la tête parce qu'il y a une toxine dans la tête des harengs qui fait que ça peut rendre les tortues malades et sur le long terme, ça peut vraiment être nocif pour elles, quoi.
Alors Océan est futé parce qu'il a mis une petite bille dans le poisson et comme ça elle va tout avaler. Voilà.
C'est des petites billes en plastique qui nous servent justement pour des données scientifiques avec le CNRS. Ça sert à savoir combien de temps elles mettent à digérer le plastique. On n'a pas les mêmes chiffres selon les années et selon les tortues marines. Et il peut y avoir deux tortues qui font la même taille. Une qui peut, on peut retrouver sa bille dans les FSS au bout de 2 semaines et une autre au bout de 2 mois.
En fait, il y a deux protocoles. Il y a ce protocole-ci pour évaluer les déchets ingérés par les tortues vivantes, un protocole pour quantifier les déchets qu'on retrouve dans les tortues échouées mortes. À terme, ça devrait permettre de renseigner des indicateurs de l'impact des déchets sur les populations de tortues. Et on espère voir diminuer ces quantités de déchets ingérés au fur et à mesure que les déchets plastiques seront de moins en moins utilisés, ce qu'on ne peut qu'espérer dans les années à venir.
Ouais, ça c'est vrai qu'on peut l'espérer parce que les océans comme les tortues, vous le savez, n'aiment pas le plastique. Alors c'est toujours, je crois, très fort, toujours émouvant d'entendre des jeunes, des gens qui aident et qui soignent à la fois les humains, les animaux. Et Benjamin Guichard, donc de l'Office français de la biodiversité, que je remercie, a retrouvé une tortue. Il est allé dans le Finistère, c'était dimanche dernier, voilà. Et là, il a trouvé une tortue du côté de l'Aberbenois, donc elle va repartir aussi. Et justement, c'est une tortue lutte. Et ça, on va découvrir dans quelques instants les tortue lutte en train de pondre à la Guadeloupe, une île en forme de papillon comme notre générique qui nous attend.
Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence.
Le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Dans ma chambre, vous croqueriez écouter des langues de chat en silence.
Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez,
c'est bizarre.
Car vous n'auriez qu'un mot à dire à la rue, la journée, si seulement il vous en disait.
Très joli ça, dans la playlist de France Inter, CO2 Mon Amour, c'était donc La Chambre, interprétée par Rodolphe Burger et Christophe.
Les oiseaux sont les gardiens du temple, tu comprends? Tu vois, si je pose ma main sur la branche d'où vient le symbole de cet oiseau, eh bien je me sens relié à lui.
CO2 Mon Amour.
En réalité, le pied de l'arbre, c'est sa tête. C'est un être inversé. Les branches sont ses racines. Elle plonge dans le ciel. Dans le végétal, il y a toute la mémoire de l'univers. Vous êtes une partie de cet univers.
Sur France Inter.
Et oui, se relier à la nature. On avait bien sûr retrouvé cette voix de Yves Montand. Alors, 350 tortues terrestres, 7 marines, la lutte, la verte, la caouane, et dont 6 quand même qui sont chez nous. La tortue lutte, on l'a compris, elle est dans toutes les mers du globe, bon, sauf polaire, en Bretagne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, elle semble suivre, comme les autres, hein, des corridors biologiques sous-marins. Et là, on va partir donc en Guadeloupe, rejoindre Sophie Bedel. Aujourd'hui, elle est responsable scientifique au Parc National de Guadeloupe. Elle a aussi travaillé pour l'association Cap Naturel qui fait un sacré boulot. Où sommes-nous en Guadeloupe? Eh bien, direction Basse-Terre, vous avez la côte sous le vent et là, la plage de Trois-Rivières et la nuit nous accueille.
Alors, en fait, là, on patrouille avec une lampe rouge qui est une lampe que les tortues décèlent moins qu'une lampe normale. Et en fait, on patrouille la plage à la recherche des tortues en ponte. Et là, la trace qu'on a sous les yeux, en fait, c'est la trace de retour à la mer qu'une tortue a fait il y a à peu près une demi-heure.
Ouais.
Donc en fait, elle est montée sur la plage, elle n'a pas trouvé son endroit, elle a fait demi-tour. Et en fait, là, ce soir, l'équipe est assez excitée parce que c'est la première tortue qu'on s'apprête à voir pour cette saison. Donc c'est toujours un moment assez important.
D'accord. Donc là, il s'agit, parce qu'on voit une très belle trace, c'est une tortue lutte, ça?
C'est ça. C'est, en fait, on est sur un des rares sites de ponte en Guadeloupe où il y a 3 espèces qui pondent entre mars et novembre. Et c'est les luttes qui ouvrent le balai. Les plus grosses, les plus impressionnantes. Oui. Et si on a un peu de chance, on va
peut-être
voir ça
voir.
Ce soir.
Comment font-elles? Est-ce qu'elles reviennent sur les lieux de ponte qui sont toujours les mêmes? Ou bien elles sont fidèles ou infidèles aux lieux de ponte?
Alors en fait, ça dépend des espèces. Selon les espèces, elles vont être plus ou moins fidèles. La tortue lutte, moi je l'appelle souvent la globe nageuse. C'est la tortue qui voyage le plus vite, le plus loin. Et
elle va jusqu'en Afrique ou en Europe, hein, celle-là.
Elle en est capable. Et même à l'échelle de la Caraïbe, elle est capable de faire une ponte sur la plage où nous nous trouvons ce soir, d'aller faire la suivante dans 8 jours en Dominique ou en Martinique et de revenir par ici pour la ponte d'après.
Elle va en faire combien, en fait, des pontes en moyenne?
Alors, elle peut, en général, c'est 4 à 6, mais il y a des records à 12. Donc l'effort que ça représente pour elle de monter 12 fois sur la plage, de faire 12 nids, c'est quelque chose de considérable.
Elle n'est pas exactement légère, elle peut faire jusqu'à quoi, 400, 500 kilos celle-là ou...
Oui, les tortues luttes qu'on a en Guadeloupe sont un peu plus petites que celles qu'on peut avoir en Guyane ou au Gabon. Mais c'est quand même des tortues assez impressionnantes qui atteignent 1m60 et 400 kilos.
Bon, alors moi je suis une tortue, j'ai besoin d'aller creuser à quoi, 50, 60, 1 mètre de profondeur, c'est...
Alors à nouveau, on va avoir des nids très profonds pour les tortues luttes, jusqu'à 1 mètre. Et puis après, plus la tortue est petite, plus elle va pondre ses œufs vers la surface. C'est une question de longueur des pattes, tout simplement. Par contre, elle fait un petit coussin de sable qu'elle tasse suffisamment pour que les œufs soient protégés. et pas trop pour que les œufs puissent respirer à travers le sable. Parce que si les tortues viennent déposer leurs œufs à terre, c'est parce que les bébés tortues respirent à travers la coquille. Donc c'est très important que le tassage soit juste ce qu'il faut.
J'ai une chance sur combien ? Je suis une tortue, j'ai une incubation, quoi. 2 mois à peu près, 3 mois, c'est à peu près ça le...
C'est ça, on dit en généralement 2 mois, c'est 60 jours, plus ou moins 10 en fonction de la couleur du sable, okay. De l'endroit où elle pond. Et c'est vrai que c'est 60 jours pendant lesquels il faut que la ponte soit protégée des braconniers, des prédateurs, de la marée. Donc c'est vrai que pour une tortue, c'est toute une stratégie d'aller mettre son nid à un certain endroit pour les protéger des différentes menaces.
Alors ça, c'est le premier obstacle. Après, deuxième obstacle, je sors. Bon, et on connaît ces images où on voit effectivement ces toutes petites tortues qui sont en train de filer vers la mer. Alors, c'est une chose intéressante. Est-ce que déjà là, le bébé tortue va s'imprégner du lieu ?
Alors, c'est ce qu'on pense en fait. Hein. On pense que la migration qui leur permettra de revenir d'ici une vingtaine d'années sur leur site de naissance...
Il faut attendre 20 ans. Hein.
C'est ça, au moins. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Ça fait 25 ans qu'elles sont protégées, mais avant que les effectifs augmentent, il faut beaucoup de temps. Mais oui, on pense que c'est pendant l'incubation et aussi pendant la période de sortie du nid jusqu'à la mer que les tortues enregistrent entre guillemets un certain nombre de paramètres qui vont leur permettre de revenir jusque-là. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire très attention quand les tortillons sortent du nid à ne pas les manipuler, parce qu'un peu comme pour un petit oiseau pour qui on dit faut pas le toucher pour pas interférer, on pourrait causer des dégâts en voulant aider les tortillons à rejoindre la mer.
J'échappe aux braconniers, j'échappe aux gens qui font n'importe quoi, j'échappe donc aux oiseaux. J'arrive à la mer, c'est pas la fin de mon histoire là.
C'est là que tout commence.
Oui.
Il va falloir échapper aux prédateurs qui attendent dans l'eau. Il va falloir échapper aux prédateurs qui sont un peu plus loin, nager très loin, survivre aux obstacles qu'il y a en mer, se trouver un abri. Et puis ensuite, elles vont dériver pendant quelques années, qu'on appelle les années perdues, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe.
Hop là. Bienvenue la mer, à nos pieds.
Est-ce que ça dérange si on avance en
pas du
temps
tout, pas du tout.
Je elle a refait un U.
Oui, elle est repartie là. Effectivement, elle a tourné.
Ça veut dire que c'est bon signe.
Oui.
Ça veut dire qu'elle est déterminée.
Elle est persévérante.
Je vais aller voir en fait, je pense qu'elle est là.
Ouais, je bouge pas. Oui, dis donc la voix là. C'est incroyable. Quelle est ma chance de survie en définitive sur, je sais pas, on va dire quoi, 1000 œufs ?
Alors en fait, il y a un chiffre qui tourne dans le milieu des amateurs de tortues marines qui dit qu'il faut à peu près 1000 œufs pour faire une tortue adulte. Donc ça représente quand même une dizaine de pontes puisqu'on considère qu'il y a 100 œufs par nid. Cela dit, ce chiffre-là, c'est un chiffre qui a été établi à un moment où il n'y avait pas autant de menaces liées à l'homme qui pesaient sur les tortues. Aujourd'hui, c'est probablement encore beaucoup plus d'œufs qu'il faut pour qu'il y ait une tortue adulte, puisqu'il y a un grand nombre d'obstacles, les captures accidentelles dans les filets, la destruction des habitats, et il est probable qu'il faille beaucoup plus d'œufs pour avoir une tortue adulte.
Et cette histoire dure depuis 150 millions d'années.
C'est ça. C'est des animaux qui ont survécu à un grand nombre d'extinctions et qui ont frôlé l'extinction il y a quelques dizaines d'années. Mais c'est des animaux qui sont assez adaptables dans leur archaïsme. Et on espère que grâce à tous les travaux de protection qu'on entreprend, mm-hmm. qu'elles survivent à l'extinction qui est en train de survenir. Denis ?
Ouais.
Il y en a une qui vient de sortir, là. Donc,
attendez, où c'est sur la gauche, là ?
Elle est juste contre les cailloux. Alors c'est sûr que c'est difficile de nuit de distinguer une tortue d'un gros caillou. Mais
ça bouge là, ça y est.
Elle est en train de se caler en fait. Elle va choisir l'endroit où elle va commencer à balayer, donc elle utilise ses pattes avant pour balayer.
Ouais.
Elle va se faire une place nette en fait. Et puis une fois qu'elle aura fini de balayer, elle va commencer à creuser avec ses pattes arrière. Et là, elle va faire un cylindre presque parfait.
Alors attendez, parce que là, comme marque, qu'est-ce que c'est là ? C'est une lutte ? C'est une. C'est plus petite, c'est une briquet ?
Au vu de la taille et de l'enfoncement dans le sable. C'est un animal lourd et grand.
Ah oui.
Et tout porte à croire que ce soit une tortue lutte. En plus, c'est la saison.
Donc, c'est celle-là que vous pistez depuis, allez, 2-3 jours.
Ah, Alors en fait, tant qu'elle est en train de bouger comme elle est en train de le faire,
elle
ne
peut pas le faire. On bouge pas. Nous, on bouge pas.
Il ne faut pas bouger. D'accord. Tant qu'on ne bouge pas, on ne représente pas de danger pour elle. Là où on va commencer à s'approcher, c'est quand on suppose qu'elle est en train de commencer à pondre ses œufs, parce que c'est le moment où nous, on va pouvoir intervenir pour le suivi scientifique qu'on fait.
Oui.
Donc du moment où elle est en train de pondre ses œufs, alors il peut se passer, nous on table sur 45 minutes, moins d'une heure en tout cas. C'est ça qui nous fait, qui rythme nos allers-retours sur la plage,
oui.
Pour être sûr de n'en louper aucune. On considère que c'est 45 minutes en moyenne, mais les tortues luttes, elles prennent un peu plus de temps quand même.
Bon, mais ça veut dire qu'en une heure, elles ont bouclé le cycle entre monter, creuser, pondre et repartir à la mer ?
Si les œufs sont en bon état, a priori, ils ne vont pas se faire déterrer. Si jamais il y en a un ou deux de cassés, là, ça crée une odeur. Et là, il y a tous les prédateurs qui peuvent intervenir, les crabes, les raccoons et tous les animaux qui vivent aux abords des plages.
Et alors, on a une température, il fait quoi, 25-26 degrés là,
non ? Oui, quelque chose comme ça. On a les alizés qui nous rafraîchissent.
Ouais.
Mais on est autour de 25 degrés en pleine nuit.
Ouais, avec la soufrière au-dessus de notre tête, qui n'est pas très loin.
Non, elle est directement en face de
ouais,
nous là.
C'est ça. De l'émotion pour ce vivant auquel on appartient les uns et les autres, de la connaissance scientifique et puis aussi de l'action donc pour tenter de changer donc le cours des choses et garder donc ce merveilleux vivant que l'on défend évidemment dans cette émission et que vous défendez aussi les uns et les autres. Merci donc à Sophie Bedel, donc aujourd'hui garde du parc national de la Guadeloupe. Oh, ça sent la fin. Merci à Rémi Siskiaga qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que Fabrice Desmas qui a mixé le reportage. Merci à Camille Blanès et Thomas Lehété, à Xavier Pessugia qui a réalisé et colorisé donc cette émission, à Thierry Lupin pour le choix de ses disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, on va aller dans les Alpes de Haute-Provence et on parlera de Jean Giono et de la nature sur le Comtadour avec Jacques Méni. On peut réécouter évidemment cette émission, le podcast, abonnez-vous, comme pour l'Atu du Mont-Pilou. Le Twitter, c'est Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche.